Vous écoutez
RMC. RMC, l'After Foot, intégrale Coupe du Monde.
Pierre Dorian.
L'After Foot, intégrale Coupe du Monde avec Florent Gautreau, Daniel Riolo à 22h. C'est le coup d'envoi de Suisse-Colombie pour désigner l'adversaire de l'Argentine en quart de finale. L'Argentine qui a encore eu chaud face à l'Égypte dans un scénario un peu fou qui ressemble d'ailleurs à son match contre le Cap-Vert. On en a beaucoup parlé au début de l'After.
Encore plus de folie.
Encore plus de folie, ouais. Encore plus d'émotion. Des buts fantastiques, hein, quand ouais. même. Hein. Mmh, il y a des absolument. Très beaux buts. Tiens, alors on est toujours avec Patrick Vieira. Patrick, avant de parler de toi, de ton avenir, juste un petit mot sur les déclarations de Youri Djorkaeff. On vient de dire qu'il y a des buts sublimes dans cette Coupe du Monde. Youri est l'invité des Nuits de l'After. Vous l'entendrez tout à l'heure. Il estime que le niveau technique est moins élevé qu'à son époque.
Mais quelle époque? En 98?
En 98, je pense qu'il parle de toute sa carrière.
Alors, attends, je vais mettre juste un truc, parce que je ne sais pas si ce dont voulait parler Youri. Il y a un truc, et peut-être que Patrick pourra rebondir là-dessus. Moi, j'avais dit dès le début de la Coupe du Monde que certains milieux de terrain, puisque lui faisait partie des milieux de terrain techniques, Patrick, étaient moins impressionnants techniquement. Ce qui ne veut pas dire
oui,
que les joueurs...
Il y a plus d'Iniesta, il y a plus de joueurs comme ça. Okay.
Juste, oui, mais c'est important, parce que la salle des machines, c'est milieu de terrain.
C'est pas ça que Youri disait.
Apparemment, c'est plus global chez Youri.
Alors, Patrick, ton avis?
Non, mais Youri, c'est vrai qu'il a été un joueur très technique. Sa qualité, c'était vraiment avec le ballon, on va dire. Mais je pense que c'est un jugement qui est globalement un peu sévère, je trouve. Parce que quand même, je trouve qu'il y a encore des joueurs qui sont très techniques. Mais après, le jeu a évolué énormément sur l'aspect physique et athlétique. Le jeu va beaucoup plus vite parce qu'il y a beaucoup plus de transitions.
Oui.
Et à partir de là, si le jeu va beaucoup plus vite, il y a beaucoup moins de qualité technique parce que le jeu est un peu plus basé sur le côté le box-to-box. On a le ballon, c'est les transitions offensives. Mais globalement, je trouve que c'est un jugement qui est un peu sévère.
Ouais, il y a des joueurs très techniques dans cette Coupe du Monde.
Là où Patrick a parfaitement raison, c'est que le jeu a tellement évolué que limite, oui, les transitions, oui, le côté athlétique, oui, l'intensité, la fameuse intensité qui d'ailleurs est moindre dans cette Coupe du Monde que en Première Ligue ou en Ligue des Champions. Ça joue un peu moins sur l'intensité, sur les sprints à haute intensité dans la Coupe du Monde. C'est peut-être ça qui fait que parfois on se rend pas toujours compte des gestes techniques. Mais désolé, quand tu vois Messi avec l'Argentine ce soir, le centre de Lautaro Martinez pour la tête d'Enzo Fernandez, c'est un geste technique et on en a eu beaucoup des gestes. Les Mexicains l'autre soir, le centre, ça a peut-être l'air de rien, mais le centre taclé que fait Harry Kane sur le premier but de Bellingham, mais tout ça c'est des gestes techniques. Je pense que l'avis de Djorkaeff est un peu sévère, mais tu sais Patrick, parfois il y a des gens quand ils vieillissent ils regardent en arrière et ils pensent toujours que c'était mieux avant, tu sais.
Après il y a deux choses, d'abord sur ce que tu as dit Patrick sur les transitions, je vais donner un exemple aussi d'une transition où qui est très technique, c'est celle de l'Égypte sur le deuxième but, enfin sur le but qui a été refusé, parce qu'avant qu'il y ait la transition, le double contact plus le petit pont et l'élimination que fait le joueur égyptien, c'est très technique. Et après, il y a un truc sur lequel je rejoins peut-être Youri, c'est une Coupe du Monde qu'on a nous beaucoup critiqué par rapport au fait qu'elle était à 48. Et donc, cette densité d'équipe fait qu'on a vu aussi des joueurs moins forts techniquement. Et je parle même des gardiens, je l'ai dit dans l'after, il y a des joueurs qui sont moins forts techniquement. Donc, c'est peut-être ce qu'il a voulu dire. C'est-à-dire que forcément, comme tu as plus d'équipes, tu as un peu plus de déchets, notamment dans les équipes les plus faibles. Et on s'aperçoit que ceux qui sont forts techniquement, comme les Argentins, font la diff aussi parce qu'en face, il y a quelques lacunes.
Alors, rendez-vous à une heure.
Je sais pas si je suis d'accord à 100% avec ça, parce que quand je vois la qualité d'équipe par exemple du Cap-Vert, le match qu'ils ont fait contre l'Argentine, je les ai trouvés pas aussi faibles que ça. Je pense qu'il y a des petites nations. Après, il y a des côtés positifs d'avoir autant d'équipes à cette Coupe du Monde, c'est de découvrir aussi des nations, des joueurs. Et je trouve que le Cap-Vert, par exemple, a fait une très bonne Coupe du Monde. Mmh. Et je suis persuadé que dans le futur, on verra certains joueurs capverdiens dans un grand championnat européen. Quoi.
Patrick Vieira, champion du monde dans l'after, et Youri Djorkaeff, donc autre champion du monde à 1h du matin. On vous régale ce soir.
Hein. Ah, il sera là tout à l'heure, Youri. Ah, dommage. Bah, merde, je serai pas là pour débattre avec lui du sujet. Tiens, puisque tu faisais un lien entre, à travers cette discussion foot d'avant et foot d'aujourd'hui, t'as été, si je me trompe pas, le premier entraîneur à Strasbourg de l'ère Blouko. Ouais. Et tu n'es pas sans savoir que ce nouveau système pour diriger les clubs de foot est pas mal critiqué en France. Comment tu as vécu, toi, d'être l'entraîneur d'un club qui avait la maison mère à Londres et donc à Chelsea? La prise de décision, on ne savait pas toujours où elle était. Comment tu as vécu cette expérience-là à l'époque?
Bah moi j'ai eu la chance, Daniel, tu sais, d'avoir commencé un peu avec avec Manchester City et avec Manchester City aussi qui ont un peu ces clubs un peu partout dans le monde.
Oui, c'est comme et ça que tu étais allé à New York City d'ailleurs, qui était dans la galaxie.
Exactement, ouais. Exactement. Et là, il y avait des choses qui étaient vachement cohérentes et il y avait des relations propres sur la construction de l'effectif, sur les décisions à prendre et que l'entraîneur faisait vraiment partie de ces décisions-là. Après Strasbourg, je pense que c'est des nouveaux dirigeants qui arrivent un peu dans le foot et qui ont peut-être du mal à savoir un peu comment ça se passe et surtout l'importance que l'entraîneur doit avoir dans une organisation. Et à partir de là, ça a été une aventure difficile dans l'aspect relationnel. Et c'était difficile d'entrer une équipe quand les décisions elles doivent être prises de Londres tout simplement quoi. J'ai trouvé ça dommage parce que Strasbourg c'est vraiment un très bon club avec vraiment des très bons supporters, mais qui ont un peu du mal à comprendre la gestion du club actuellement et je partage cette incompréhension avec eux aussi.
D'ailleurs, on n'a jamais vraiment su comment ça s'était terminé. Est-ce que t'es parti? Est-ce qu'ils t'ont remercié? Rosenior a débarqué là. Comment tu l'as appris? Est-ce que non, c'était vraiment d'un commun accord ou pas, Patrick?
Oui, non, sincèrement, c'était comme un accord. Enfin, je veux dire, on s'est rencontrés, on a discuté. Ils m'ont expliqué un peu ce qu'ils voulaient faire un peu dans le futur. Et puis, je me sentais pas pris en considération dans ce projet-là. À partir de là, c'était mieux de se serrer la main et que chacun continue son chemin. Ça a été une discussion qui a été assez rapide, assez courte. Mais après, quand on veut se séparer d'un entraîneur, on crée des situations pour pas qu'il se sente bien aussi, quoi.
Je sais pas si c'est comparable, mais pendant que tu parlais, je pensais à l'expérience à Nice. Là aussi, on avait le groupe Ineos. On a vu depuis à quel point leur gestion est souvent incompréhensible ou incohérente, mais là pareil, les décisions elles n'étaient pas prises à Nice en fait. C'est quand même bizarre tout ça aussi.
Non, mais les décisions elles étaient prises par les dirigeants qui avaient à l'époque à l'OGC Nice. Hein. Le problème de l'OGC Nice c'était à partir du moment où on rentrait dans une nouvelle ère où on voulait créer des actifs et puis on voulait faire du trading. Et pour faire ça, fallait un peu de temps et le temps malheureusement je ne l'avais pas. Mais les décisions, elles étaient prises à l'époque avec River et Fournier. Ineos a été plutôt très bien dans cette relation-là, quoi. Mais quand on part dans un projet et on veut faire du trading et qu'on passe dans un moment difficile où les résultats n'ont pas été bons. Malheureusement, les dirigeants, quand je dis les dirigeants, c'est vraiment Fournier et River, avaient pris la décision de se séparer de l'entraîneur, de moi. Et ça, c'est...
On va retrouver Patrick Vieira.
Un peu ses responsabilités.
C'est pas difficile aujourd'hui pour un coach. Donc là, je sais pas, tu vas nous dire dans un instant si tu es à la recherche d'un club, mais aujourd'hui, les coachs sont confrontés à une difficulté, c'est qu'on a le sentiment qu'il y a quelques gros clubs, qui jouent quelque chose où c'est structuré pour la compétitivité, la performance. Et j'ai l'impression qu'il y a 70-80% des clubs aujourd'hui. Le projet, c'est de former des joueurs, de les vendre et d'être en gros les clubs sparring partners des gros, quoi. C'est difficile de trouver un projet où on voit une cohérence dans la gestion, non? Je sais pas, qu'est-ce que t'en penses?
Non, mais il y a certains clubs qui ont besoin de vendre pour vivre, surtout en France par rapport aux difficultés des droits télé, aux difficultés des revenus. Alors pour vivre, les clubs doivent produire des joueurs et doivent les vendre. Je pense que ça, c'est quelque chose de compréhensible. Après, c'est accepter que quand on fait jouer des jeunes joueurs, il peut y avoir des moments difficiles. Et en général, pour apprendre, faut faire des erreurs, et ces erreurs-là peuvent coûter des points, peuvent coûter des places au niveau du classement, et puis il faut l'accepter. Et ça, c'est difficile à accepter pour certains dirigeants. Je trouve qu'il y a encore des projets très intéressants en France ou même en Europe, mais c'est d'avoir une ligne de conduite, d'avoir un projet. Et c'est donner les moyens de réussir.
Et quand on a une carrière comme toi en tant que joueur et y compris aussi en tant qu'entraîneur, justement, est-ce qu'on n'a pas envie de dire de faire une croix sur les projets un peu compliqués par les problèmes des droits télé? Donc, ça veut dire quasiment tous les projets en France deviennent compliqués, et d'attendre le projet un peu financé, autofinancé presque, comme celui du Paris Saint-Germain, et d'attendre, il y a peu de place évidemment, mais d'attendre plutôt ces projets-là. On était en Italie avec Leonardo dans l'année, et lui clairement il nous avait dit ça un peu. Dis-moi maintenant, en gros, si je replonge, c'est sur un gros truc qui est costaud, pas sur une aventure hypothétique où tu sais pas comment ça va finir, quoi.
Non, mais moi, ce que je recherche vraiment, c'est un projet qui va se donner le temps de réussir. Après, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'entraîneurs qui attendent, et il y a très peu de place. Mais ce que moi je recherche vraiment, c'est un club où je peux m'épanouir, parce que j'adore ce métier et j'aime ce métier. Et c'est vraiment d'avoir la même direction, de travailler tous ensemble, même des clubs qui ont besoin de vendre, qui ont besoin de faire sortir des jeunes au niveau du centre de formation pour les vendre. Peut-être aussi un projet intéressant. Ce qu'il faut, c'est accepter les difficultés qu'il peut y avoir durant la saison, et puis voir comment ça se passe en fin de saison, quoi. Mais il y a des projets qui sont intéressants en France, il y a des projets qui sont intéressants en Europe.
Et par hasard, si Zizou sélectionneur fait appel à toi, tu y vas ?
Pardon ?
Par hasard, si Zinedine Zidane, sélectionneur de l'équipe de France, te passe un coup de fil pour venir dans le staff, tu y vas ou pas ?
Mais parce qu'il est, il sera le sélectionneur. Ah, je pense.
Oui, Patrick, fais pas le malin, tout le monde le sait, c'est bon.
Ça peut être bien.
Non, mais je pense que Zidane a son équipe en tête. Moi, je suis plus à la recherche d'un club pour le travail au quotidien que d'une sélection.
Donc aujourd'hui, toi, tu as envie de revenir sur un banc, parce qu'on sait que tu as également goûté à l'expérience de consultant. Consultant, c'est quand t'as pas de taf, mais tu veux vraiment retrouver un banc. Ce métier te passionne.
Oui, non, mais l'objectif, c'est de trouver un banc, c'est de travailler au quotidien avec un club. Là, j'ai vraiment décidé de prendre le temps de bien réfléchir et de bien étudier les choix que je peux avoir. J'ai pas envie de sauter sur le premier club, parce que je l'ai fait auparavant et ça m'a pas réussi. Mais j'ai cette envie-là de continuer à entraîner.
Dans quel pays, dans l'after.
Dernière question, dans quel pays ? Parce que France t'as fait, Italie t'as fait, Angleterre t'as fait, États-Unis t'as fait. C'est quoi les pistes ? Qu'est-ce que t'aimerais où finalement ?
Non, mais peu importe. Sincèrement, Daniel, peu importe. J'ai la chance d'avoir une belle expérience et que je maîtrise plusieurs langues. Ce que je veux vraiment et ce que je recherche, c'est vraiment une belle expérience où je peux m'éclater en tant qu'entraîneur. Et un beau projet et travailler avec des directeurs sportifs, des présidents qui ont une certaine confiance et qui ont laissé le temps de travailler.
Patrick, reste avec nous. Ta maîtrise de l'italien va être nécessaire dans un instant. On a une petite surprise, voire une grosse surprise pour toi et pour tous les auditeurs de l'After. On revient très vite.